Trois exemples. Le premier, Cracoviets et Mural dans la scénographie d'Ali Bunch. Donc c'est cela qui nous intéresse particulièrement parce qu'il s'agit des marionnettes créées dans le style national. Donc comme vous voyez ici avec l'exemple de ce spectacle, il s'agissait de très nombreuses figurines à tiges et une vingtaine de manipulateurs invisibles cachés tous derrière le paravent. Sorte de spectacle traditionnel, bien sûr, avec les costumes régionaux et danses traditionnelles, où le chant fait partie intégrante du spectacle. La deuxième création, il s'agit de Decameron, d'un couple mythique, de Wilkowski, metteur en scène, et Adam Kilian, le scénographe, qui travaillait très souvent ensemble. Ici, il s'agit d'un spectacle qui a été créé à partir d'une présentation de fin d'année des élèves de l'école de Białystok au sujet de la nécessité de fuir une épidémie et souvent d'émigrer. Donc ici, on peut déjà lire une certaine surinterprétation d'un exil politique nécessaire. Ici, on va voir également déjà une certaine recherche de nouvelles formes marionnettiques créées à partir du corps du manipulateur. Et effectivement, dans l'évolution du théâtre polonais, on observe que la place du comédien est de plus en plus importante. Et c'est cette tendance qui est approuvée dans le théâtre contemporain, qui est souvent inclassable, étant donné la présence marionnettique très rare ou épisodique. Le troisième exemple, le spectacle « Samotność, solitude ». C'est un très rare exemple et aussi un bel exemple des créations polono-étrangères. Donc ici, on est déjà en 88, où cette collaboration est possible, de Jerzy Zitzman avec François Lazaro, qui est présent ici, qui pourra éventuellement présenter son spectacle par la suite. En tout cas, ce spectacle a suscité beaucoup de réactions, a été très bien reçu et a éveillé beaucoup d'espoir concernant un changement possible et les nouvelles possibilités de création internationale. Alors, j'aimerais bien commencer ma présentation par un compte-rendu de la situation globale, caractérisée bien évidemment par la nationalisation progressive des théâtres et l'application du modèle soviétique qui a pour but de réduire l'activité marionnettique et l'enfermer dans les limites institutionnelles surveillées par l'État, où on a contraint les marionnettistes à renoncer au dialogue avec la tradition marionnettique polonaise qui, d'une part, était un art de l'espace ouvert, bien évidemment, il s'agissait aussi d'un art ambulant. On a supprimé, donc c'est un peu le cas contraire de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on a réussi à supprimer les théâtres ambulants, on a réussi à supprimer les activités privées, et celle des solistes aussi, qui était bien répandue avant la guerre. Et me semble-t-il que le théâtre en Pologne subit toujours les conséquences de ces décisions. Et d'autre part, l'art de marionnette, de marionnettiste polonais puisait ses origines dans ce que l'on peut appeler Chopka, donc il s'agit des crèches vivantes existantes depuis le XVe siècle. Et certes, cette origine du théâtre Lalek, donc c'est la nomination pour le théâtre marionnettique en Pologne, est assez polémique, c'est-à-dire mise en valeur par certains chercheurs, dont Lurkowski, contestée par d'autres, comme Vachiel. Mais ce qui semble plus important, c'est que cette idée de crèche de Noël, située aux origines de l'art marionnettique en Pologne, était très répandue parmi les marionnettistes eux-mêmes, parmi les praticiens, qui semblait revendiquer cet héritage et le thème aussi, notamment de la nativité, qui bien évidemment était interdit par le régime à cause de son caractère religieux. Alors, en ce qui concerne la nationalisation des théâtres, en ce qui concerne les théâtres dramatiques, donc les théâtres d'acteurs, les théâtres classiques, cette nationalisation a commencé en 1945, tandis que celle de théâtre de marionnettes a commencé en 1949. Et on a déjà eu immédiatement 7 théâtres de marionnettes nationalisés et le 8e en 1950, le théâtre de Gdańsk. On a créé à cette époque une institution, donc en 49, il s'agissait d'une institution nationale de théâtre de marionnettes qui a duré pendant 3 ans et dont le rôle consistait à approuver le répertoire, choisir les membres de la direction des théâtres, décider du budget accordé à chaque théâtre. Et en ce qui concerne cette nationalisation, donc pour comparer, en 54, on avait 24 théâtres de marionnettes nationaux et 111 théâtres dramatiques, donc les théâtres d'acteurs. Vous avez ici une petite carte de la Pologne avec les théâtres de marionnettes. En 1952, on va créer une nouvelle institution. Donc il s'agit de la section du théâtre de marionnettes qui est annexée à la direction centrale des théâtres, opéras et centres de musique classique, créée par le ministère de la Culture et de l'Art. Et c'est Henryk Jurkowski qui avait la fonction du chef de cette section pendant 20 ans, entre 52 et 72. Jurkowski va décrire son activité dans cet ouvrage « Ma génération » qui a été publié récemment. Et il nous dit effectivement en quoi consistait son rôle. Il s'agissait d'admettre les activités de tous les théâtres de marionnettes. Donc il s'agit du répertoire, tournée à l'étranger, choix du directeur, choix du nombre d'employés, bien sûr les noms aussi, les personnes à choisir, le nombre de spectacles joués durant chaque saison, le nombre de premières, leurs titres, choisis parmi les pièces figurant bien évidemment sur une liste préétablie. Tout cela dans le but, je cite Jurkowski, d'unifier l'ensemble de la création artistique des théâtres professionnels. Alors bien évidemment, le théâtre de marionnettes, comme un peu partout, n'était qu'une petite cellule d'une très grande structure et était le moins surveillé à cause, bien évidemment, de sa fonction première, adresse aux enfants, aux jeunes publics, avec une fonction pédagogique assignée. Cependant, les artistes ont essayé à plusieurs reprises de contourner cette règle d'adresse aux enfants, aux jeunes publics, en considérant que le théâtre de marionnettes est théâtre d'une forme et non un théâtre d'un spectateur. Donc on a des exemples des théâtres qui ont choisi de bâtir leur programmation destinée exclusivement aux spectateurs adultes, notamment Mauerszene, donc petite scène du théâtre L'Allée de Wrocław, qui est créé à la fin des années 60 avec quelques exemples de spectacles de Heino. Nous avons aussi scène pour adultes du théâtre L'Allée de Białystok, où notamment Rau a pu créer le fichier de Różewicz en 72. Donc encore une fois aussi cette caractéristique qui est due au développement de la forme, c'est-à-dire qu'on va mélanger à chaque fois le théâtre d'acteurs avec le théâtre de marionnettes. Donc ici on a un acteur dramatique qui est tout seul sur scène, la seule présence d'un acteur vivant qui est entouré justement de ces figures marionnettiques. D'autres exemples, le travail de Smandzik, donc ça c'est encore Rao, Smandzik, et puis par exemple Mandzik, effectivement après on pourrait parler de sa scène plastique, donc le théâtre de forme plutôt, que le théâtre de marionnettes, on pourrait parler également du théâtre de Cantor, etc. Dans un ouvrage passionnant qui vient de paraître récemment également, Krzysztof Rau, donc il s'agit d'un livre intitulé Autolustracja, donc Autolustration si on veut traduire mot à mot, rappelle que les spectacles des enfants n'étaient quasiment pas surveillés, c'est-à-dire que les censeurs se déplaçaient très rarement pour assister aux premières, aux répétitions des spectacles. Cependant, quand il a créé dans les années 70 sa scène pour les adultes, donc c'est cela justement la création de cette scène qui a attiré tout de suite l'attention de la censure. Alors, mais bien évidemment, les choix artistiques, donc il s'agit de la thématique et de la forme, dépendaient de la direction centrale. Donc on a ce qu'on appelle le réalisme socialiste, donc vous voyez ici un exemple. D'après les sondages, parmi les 200 spectacles de marionnettes créés entre 49 et 55, la moitié représente les pièces des auteurs polonais. Donc malheureusement, il faut dire que ces créations, en fait, ces textes sont plutôt d'une qualité médiocre. un cinquième parmi eux représente clairement les postulats du réalisme socialiste, et la deuxième moitié met en scène des textes soviétiques, les contes russes et quelques pièces tchèques. Ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire au début, à partir de 1949, les marionnettistes polonais ne se sont pas révoltés en quelque sorte contre le modèle soviétique imposé, étant donné qu'ils étaient vraiment impressionnés par les spectacles d'Obrastov, qui a voyagé justement à la fin des années 40, début des années 50. Il a fait plusieurs tournées en Pologne, donc ce modèle a été appliqué avec beaucoup de facilité. Et effectivement, si on regarde ce spectacle des années 50, on voit voir souvent non seulement la thématique socialiste, mais aussi la forme qui a été bien respectée. C'est-à-dire que ce théâtre va être inspiré, le théâtre de marionnettes va être inspiré par le théâtre d'acteurs. C'est-à-dire que les marionnettes doivent, par exemple, respecter le sol, les appuis, doivent entrer et sortir à cour, à jardin, comme les comédiens habituels. Et c'est Kopalko qui va être le premier en 54 à ouvrir cet espace et effacer le sol et les points d'appui dans les spectacles de marionnettes. Alors, son histoire est intéressante également parce qu'il n'était pas du tout dans le milieu marionnettique, c'était un spécialiste du théâtre radiophonique, mais qui a dû quitter son milieu à cause de sa fascination pour les nouvelles formes, qu'il essayait d'ailleurs de contourner tant bien que mal, c'est-à-dire qu'il occultait la forme originale, anti-réaliste de ses créations sous des noms approuvés par la censure, par exemple des intermèdes plébéiens. Donc voilà, c'était la nomination qui pouvait plaire à la censure, qui parfois n'allait pas chercher plus loin. Et effectivement, il a pu trouver beaucoup plus de liberté dans la création de théâtre marionnettique en choisissant des titres de spectacles bien conformes. Donc c'était d'ailleurs une action assez répandue de choisir bien évidemment un texte qui ne suscitait pas beaucoup d'attention de la part de la censure, mais après de l'interpréter à sa façon, de le surinterpréter, d'ajouter un autre message directement dans la version scénique proposée par le metteur en scène. Une forme de résistance se manifeste notamment dans ce spectacle proposé par Ali Bunch, donc c'est le premier extrait que nous avons pu voir, c'est-à-dire dans ce spectacle créé dans le style national qui s'est développé surtout dans les années 50-60 grâce à la collaboration entre Bunch et Natalia Gorzelska du théâtre de Gdańsk, dont vous avez ici un autre exemple de ce type de marionnette. D'autres exemples, donc effectivement aussi, donc c'est ici où Bunch va ouvrir l'espace pour la première fois en 57. Et puis vous voyez effectivement ces formes avec beaucoup de formes, beaucoup de marionnettes et des marionnettistes, très nombreux, une vingtaine, trentaine de marionnettistes cachés derrière les paravents. Le début des années 50 se caractérise cependant par beaucoup de bouleversements dans le milieu, c'est-à-dire que de nombreux directeurs de théâtre sont écartés de leurs fonctions, de nombreux théâtres ferment également, et on supprime même en 53 la revue Théâtre Lalek. Ce sont justement donc le début des années 50 où on peut encore être accusé de pratiquer une forme de spectacle de marionnettes qui n'est pas conforme au modèle imposé. Donc pour vous donner un exemple d'Irena Sowicka, qui a fondé en 1945 le théâtre Oliver à Varsovie et qui a été accusée de quelque chose qui peut nous sembler aujourd'hui assez absurde, c'est-à-dire une des marionnettes qui avait le nez qui n'était pas assez réaliste. Donc à cause de ça, elle a dû quitter la direction du théâtre en 1952. Après, la situation change, donc notamment à partir de 1953, donc bien sûr on a ce qu'on appelle le dégel après la mort de Staline, la situation devient beaucoup plus facile, même si malgré cette libération relative de la deuxième moitié des années 50, des années 60, par exemple, Joanna Piekarska, directrice et metteur en scène, a dû quitter en 1960 son poste de directrice du théâtre à Poznań, car elle voulait laisser dans la programmation le spectacle Pastorauka d'après Schiller, créé en 57. Donc il s'agit d'un chant populaire bucolique au sujet de la nativité du Christ. Donc elle a pu créer ce spectacle, mais elle n'a pas pu le maintenir dans la programmation. Il y avait d'autres, donc le plus souvent, ces histoires justement se terminaient par la façon d'écarter un artiste. Il ne pouvait plus avoir son poste de directeur, il devait parfois partir ailleurs, il ne pouvait plus représenter ce spectacle. Un cas un peu extrême de Stanisław Ochmański qui a été renvoyé dans une mine de charbon pour des travaux forcés. Donc cela aussi pouvait arriver. D'autres conflits, bien sûr, ont eu lieu dans les années 70, donc toujours la même situation, écartés, licenciés des directeurs de théâtre, Ilkowski, Dormans, Mandic, etc. Alors maintenant, juste quelques mots sur la formation des marionnettistes. Il nous faut rappeler que la plupart d'acteurs après-guerre n'ont pas été formés dans des écoles dramatiques, parce que bien évidemment, ils n'existaient pas à l'époque. C'était des personnes qui étaient recrutées dans tous les milieux sans une formation préalable, avec une unique exigence, avoir une bonne voix, le sens de rythme, être d'une taille moyenne et avoir une bonne condition physique. Et les premières écoles qui sont formées, donc en 48, c'était un lycée professionnel pour les marionnettistes de Janina Kilian-Stanisławska, quasiment au début des années 50, le ministère de la Culture a lancé un projet des examens qualifiants. C'est-à-dire que c'était déjà des artistes qui travaillaient dans les théâtres marionnettiques, mais qui ont dû passer un examen a posteriori pour savoir s'ils peuvent continuer d'exercer leur métier ou pas. Donc ce système a touché tous les théâtres, non seulement les théâtres marionnettiques. Les acteurs dramatiques passaient cet examen dans les écoles de théâtre qui commençaient à s'ouvrir ou dans les théâtres directement, et les marionnettistes avec ILMA n'ont pas accepté cette situation et ont exigé que la commission se déplace dans chaque théâtre de marionnettes. Et ainsi, à partir de 1954, la commission nationale des examens avec ILMA en tête se déplace d'un théâtre à l'autre. La première école, donc la vraie école des marionnettistes, est créée notamment par Władysław Jarema à Cracovie. Et deux autres écoles sont créées dans les années 70, donc notamment celle de Wrocław, et puis en 74, école à Białystok, fondée par Krzysztof Rau. Donc encore une fois, une situation assez absurde, c'est-à-dire que pendant une année, cette école est restée illégale, parce que Rau n'a pas obtenu la permission d'ouvrir son école, et ce n'est qu'en 75 qu'elle est devenue légale, elle est devenue filiale de l'école dramatique, d'art dramatique de Varsovie. Alors, je voudrais présenter aussi les relations avec l'extérieur, comment cette situation justement se présentait. Alors, c'est à partir des années 50 où on a pu créer les premiers festivals internationaux organisés en Pologne, et à partir de la fin des années 50, les théâtres polonais ont pu participer aux tournées et aux festivals à l'étranger. C'était le théâtre Banja Luka en 57 qui a pu présenter en tant que le premier théâtre marionnettique polonais son travail à l'étranger. Il est parti en tournée en Tchécoslovaquie. Et la première participation au Festival international de théâtre de marionnettes à Bucarest qui a eu lieu en 58. On a invité, il y avait trois représentants, trois théâtres les plus prestigieux qui sont partis justement pour montrer leur travail pendant ce festival. Le théâtre Groteska de Cracovie, donc Jarema, Arlekin, le théâtre de Rel, et le théâtre Lalka de Varsovie, avec le spectacle de Wilkowski, Guignol Ftarapata, donc l'on peut traduire comme Guignol dans le pétrin, Guignol dans le souci. Le spectacle qui a emporté le premier prix du festival est également ici, c'est assez intéressant si on regarde la présentation de ce spectacle, donc déjà l'influence brechtienne qui a inspiré notamment ce travail de Wilkowski avec deux plans. Donc c'est le marionnettiste errant, ambulant, Wilkowski, qui raconte l'histoire du tailleur Guignol, et tous les deux sont poursuivis par les gardiens de l'ordre. Une scène particulièrement parlante, quand le Guignol est emprisonné, il crie et il est accompagné de tous les spectateurs, dont le jeune public, vive la liberté. Donc notamment 56, bien évidemment, cette phrase reste très ambiguë, même dans la bouche des enfants. Donc voilà, ça c'est la marionnette. Et puis un autre spectacle de Wilkowski qui a été élu meilleur spectacle dans l'histoire de la marionnette mondiale. Donc à Paris, donc effectivement Wilkowski a voyagé avec ces deux spectacles à la fin des années 50. Alors en ce qui concerne d'autres possibilités d'échange à l'international, on a créé l'UNIMA en Pologne en 52, mais dès 57, des artistes et des théâtres polonais participaient aux travaux d'UNIMA. Pendant le congrès à Prague, il y avait 6 représentants. Et puis en 62, à la Pologne d'organiser un congrès à Varsovie. En ce qui concerne les projets internationaux, cela peut commencer des années 70. Un des exemples parlants, c'était le spectacle Janosik en 75, qui a été préparé entre 3 théâtres, le Diva Glodrak, avec Kofta, avec Théâtre Lalki et Aktora Martinek de Poznań et Babkowe Divadlo. Donc 3 théâtres qui ont participé ensemble pour créer ce projet. Donc on avait beaucoup de relations finalement dans les années 70 et 80 entre les théâtres polonais et les théâtres tchécoslovaques, tandis que en 85, Sergio Dotti était le premier artiste de l'Europe de l'Ouest qui a pu venir travailler en Pologne. Et un autre exemple emblématique que l'on a vu en troisième position, donc le spectacle Solitude, créé entre Zitzmann et Lazaro en 88. Donc juste quelques chiffres. Un tableau qui nous représente la présence des théâtres de marionnettes polonais à l'étranger avant 89. Donc c'est surtout le théâtre de Banja Luka qui a pu montrer son travail d'une manière assez répandue. Et effectivement, paradoxalement, après 89, le nombre de séjours de théâtre marionnettique à l'étranger a baissé, donc bien évidemment avec la centralisation et puis l'autonomie, la décentralisation et l'autonomie des théâtres, où les artistes ne pouvaient plus se permettre de voyager avec un coût de déplacement, bien sûr, qui était très important. C'est-à-dire qu'on a gardé ce système avec un nombre important d'acteurs, avec une scénographie imposante, le problème de langue qui se pose également, et puis bien évidemment la forme aussi qui est assez emblématique, c'est-à-dire paradoxalement on a très peu de marionnettes dans le théâtre marionnettique, c'est-à-dire qu'après 89 beaucoup d'artistes marionnettiques sont partis pour rejoindre les théâtres d'acteurs, et finalement cette présence aussi d'acteurs s'affirme même au sein des théâtres marionnettiques. Ici un autre tableau qui nous représente la mise en scène des marionnettistes polonais à l'étranger avant 89. Donc effectivement, il n'y en a pas énormément, pas beaucoup d'exemples. Alors juste la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la présence des théâtres privés et indépendants. C'est à partir des années 80 qu'on a la possibilité de créer ces institutions au sein des théâtres marionnettiques, donc avec un exemple par exemple du théâtre du feu et du papier. D'autres exemples, à Wierzbach à Poznań, Kitikochi ou Klinikala, donc c'est toujours les années 80. Après 89, bien évidemment, on a eu la possibilité de créer des théâtres privés, même si leur nombre n'est pas du tout grand, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment profité de cette possibilité d'ouvrir des théâtres privés. Un des exemples assez rares, c'est le théâtre de Rao, trois quarts sous nom. Donc là, ici, avec quelques exemples de spectacles. Alors, juste pour terminer, pour conclure, je voudrais me poser à moi-même et aussi poser cette question générale des conséquences finalement de cette politique, des conséquences du régime. Donc, bien évidemment, après 1989, on aura le système de la décentralisation où les théâtres nationaux deviennent peu à peu dépendantes de la ville ou de la région. Donc, après 1999, après la réforme, on n'a que trois théâtres nationaux. Donc les théâtres dramatiques, tandis que le nombre de théâtres marionnettiques, on n'a aucun théâtre national, il y en a 23 qui sont dépendants de la de ville et un seul qui est dépendant du district. Et le nombre a légèrement diminué, c'est-à-dire actuellement on a 24 théâtres et il y en avait 27 en 89. Au niveau de la structure et de la forme, on a toujours très peu de théâtres privés. Tous les 24 théâtres de marionnettes représentent de grandes structures subventionnées par la ville ou par la région, comme dans le cas de théâtre dramatique, avec des équipes permanentes, très nombreuses, d'où la difficulté pour ces théâtres de faire des tournées avec leurs spectacles, d'où leur absence très souvent aussi aux festivals internationaux. Très peu de solistes. Donc on a essayé de créer un festival dans les années 70 à Białystok, c'était le festival de marionnettistes solistes qui s'est terminé par un échec parce qu'il n'y avait pas assez de solistes qui ont voulu participer à ce festival. Et juste une exception peut-être dans ce paysage théâtral polonais, c'est le travail de Rao. Donc je rappelle encore une fois justement cet ouvrage passionnant Autolustration, qui devient en 97 directeur de Banja Luka, de Bielsko-Biała, et qui décide de réformer le théâtre polonais, c'est-à-dire qu'il fait coexister dans son travail, à côté de son équipe permanente, quelques groupes indépendants, donc ce que l'on peut appeler des résidences, donc le système qui est très répandu en France notamment. Donc le nouveau système a été très fructueux, notamment le nombre de spectacles créations a doublé, les salaires des acteurs ont augmenté, et c'est ça notamment qui a suscité de nombreuses critiques, surtout de la part du milieu théâtral. C'est cela qui a suscité de nombreux contrôles des institutions, et en 2000, Rao a dû quitter son poste de directeur. Donc là aussi, une question intéressante, c'est-à-dire son théâtre Banja Luka est revenu à une activité habituelle consacrée uniquement à la création de l'équipe permanente. Donc cette question de la censure existe peut-être dans les années 2000. Donc c'est sur cela que je voudrais terminer mon intervention. Merci.